repérage du bibliothécaire.
Bonjour Monsieur Benigno.
Bonjour Marc, comment ça va en cette journée printanière?
Écoute, ça va fort bien. Il faut dire à nos auditeurs qu'on est en duplex. Moi, je suis à Valère-sur-Rance et toi, tu es à la BSR. Qu'en fait-il à la BSR?
Exactement. À la BSR, il fait beau, il fait chaud, il fait obscur parce qu'on est fermé à la cabine, mais autrement, ça va bien. C'est parfait. C'est une belle journée, une belle journée de découverte aujourd'hui.
Ouais, d'accord. Aussi littéraire?
Oui, littéraire, bien sûr. Surtout littéraire.
Ah, ok. Alors, qu'est-ce que tu nous caches dans cette magnifique liste du mois de mai?
Alors, la liste du mois de mai, comme mois printanier, d'éclosion de fleurs et des abeilles qui volent, etc., c'est une liste très riche, très abondante, en tout genre des productions, et comme toujours, une belle brochette de polars, et des romans historiques. Il y a des magnifiques aussi livres dans le domaine de la spiritualité et de la philo. Mais je vais parler de quelques livres, et en particulier faire le focus sur quelques ouvrages, notamment. Alors, il y a un jeune auteur américain qui s'appelle Mitya Berlinsky, et on avait lu un autre de lui il y a quelques temps, et celui-ci s'appelle « Les crimes de Martija van der Loen ». Alors, pourquoi est-ce que c'est un livre intéressant? C'est parce que, alors, cet auteur américain, ce jeune Mitya Berlinsky, il a une vision pas du tout américano-centriste. Il est très ouvert vers l'extérieur. Son autre livre se déroule en Haïti. Celui-ci se déroule en Thaïlande. Et c'est l'histoire d'un jeune journaliste qui va avec sa femme, sa compagne, en Thaïlande. Et il apprend qu'il y a une anthropologue qui est en prison parce qu'elle a tué un missionnaire. Parce qu'en Thaïlande, il y a beaucoup de missionnaires chrétiens qui essayent de convertir les tribus, les peuples autochtones de la Thaïlande. Et donc, à partir de là, cette journaliste essaye de comprendre les motivations de cette femme, qui n'était pas du tout destinée à tuer qui que ce soit. Et il va en même temps pénétrer dans le quotidien des missionnaires hollandais, américains et tous ces gens qui vont essayer de faire du prosélytisme religieux, et en même temps dans les quotidiens des tribus. En l'occurrence, ça arrive dans le livre des Diallo, qui est un peuple qui n'existe pas vraiment mais qui est un mélange des différents peuples comme les Gmon, les Karen et autres. Et donc, une tribu isolée qui est très bien décrite avec ses coutumes, etc. Et donc, le livre est passionnant parce que c'est en même temps une vision anthropologique, une vision très humaine, et il y a un petit côté polar, bien que ce ne soit pas du tout un polar. C'est un livre extrêmement enrichissant, et il est disponible, le numéro 65446, Les crimes de Martija van der Loen. Ça, c'est pour le premier. Ensuite, là, on est plus dans les thrillers, un thriller un peu spécial. C'est un thriller un peu financier, bancaire, politique, d'actualité. Et là, c'est quelqu'un de chez nous qui s'appelle Jean-Michel. Et puis, alors, le titre du livre est « Les jours où Apple a acheté la Grèce ». Parce que, tu sais que la Grèce avait quelques problèmes de liquidité, si on peut dire ça comme ça.
Apparemment.
Mais il y a l'eau autour, mais la liquidité au niveau bancaire. Et donc, il se trouve que les fonds des tiroirs d'Apple permettraient facilement d'acheter toute la dette grecque, voire plus. Et les gens, cette équipe, les héritiers de Steve Jobs, disaient, si on achetait toutes les obligations grecques, donc qu'on achetait carrément la Grèce, et on essayait de faire un sort de laboratoire, particulier du capitalisme de nouveau type, Et à partir de là, il y a toute une histoire qui va se dérouler, beaucoup de suspense, beaucoup d'intelligence. Et entre autres, on lance cette idée de iTax. C'est une application qui permettrait d'imposer les flux financiers. Donc, payer les impôts, c'est les flux financiers qui vont, en fait, enrichir les caisses de l'État. Mais pour cela, je laisserai le suspense à nos auditeurs et nos auditrices d'écouter les jours où Apple a acheté la Grèce avec le numéro 65474.
Et puis, à part ça, le concurrent direct Apple, il pourrait aussi acheter toute la dette de la Grèce.
Il y a des pays entiers qui pourraient être achetés, mais bon, ça pose énormément de problèmes. Mais non, le livre il est très intéressant. Mais pour sortir un petit peu de ces mondes-là et puis rester quand même près de chez nous, mais d'une autre manière, et on va parler d'un témoignage d'un livre. Et assez poignant d'une dame qui s'appelle Silke Pan, et qui, bien qu'elle est d'origine allemande, elle est en Suisse, elle habite en Suisse depuis très longtemps. Et ce livre, c'est autobiographique, ça s'appelle « À la recherche des nouveaux sommets ». Elle a écrit avec son mari. Et il se trouve que Silke Pan était une dame qui était trapéziste, donc dans les cirques, les spectacles, etc., des hauts voltiges. Et elle prépare un spectacle en 2007. Dans laquelle elle doit sauter, s'enfiler, et son compagnon, qui est son mari maintenant, qui devait l'attraper, rate les trucs. Elle tombe, et évidemment, elle est tétraplégique. Et qu'est-ce qu'elle va faire? À partir de là, elle va se relever. Et puis elle va se relever, non seulement se relever, mais elle va commencer à pratiquer les vélos à bras, les handbikes. Elle va gravir 13 des plus haut col alpin suisse. Elle va aussi se prêter au CC pour le nouveau exoskelette qui développe le PFL pour faire que les tétraplégiques puissent marcher. Donc c'est une histoire extraordinaire. Et le livre a été écrit en collaboration justement avec son mari Didier, et c'est assez touchant, et c'est les 65207. Et comme info supplémentaire pour nos auditrices et nos auditeurs, il faut savoir que Silke Pan sera notre invité dans les prochaines saisons de BSR Apéro au mois d'octobre. Donc voilà un livre intéressant et une préparation pour les BSR Apéro.
Une belle leçon de vie, je pense. Hein.
Ah oui, c'est assez impressionnant. En plus, elle a de l'humour. C'est une manière assez légère et en même temps profonde de parler. Elle a une vie très dure, même depuis son enfance. Mais là, je ne vais pas trop raconter. Il faut lire le livre, bien entendu.
Il faut découvrir, ouais, tout à fait.
Mais oui. Et on sort là ensuite de ces mondes. Proche de nous, parce que Pan, elle habite ici, en Suisse, on la verra justement, et on entendra, et on pourra la parler avec elle. Et puis pour entrer dans un autre monde qui touche à l'histoire de l'Europe, et alors c'est un livre assez spécial, parce que c'est un livre qui est écrit dans une langue qu'on n'a pas l'habitude de voir, en tout cas dans l'original, bien entendu, tous nos livres sont en français, et car il a été écrit en yiddish, c'est un chef-d'œuvre de la littérature yiddish, et donc c'est la langue qui parlait les juifs d'Europe orientale. Et le livre, c'est un auteur qui s'appelle Eli Shekman, qui est un des chefs de file de la littérature yiddish actuelle. Et il s'appelle Erev à la veille des. Alors, c'est un fresque. Alors, ça se déroule dans un territoire qui s'appelle la Polésie. Alors, la Polésie, évidemment, je ne sais pas si tu connais, c'est une région qui n'existe plus en tant que telle, parce que, vous savez, l'Europe à l'époque était un petit peu plus, disons, découpée d'une manière un petit peu différente. Et donc, là, c'était ce territoire de la Polésie, et s'est trouvé à cheval entre la Russie, l'Ukraine, la Pologne et la Biélorussie. Et là, évidemment, il y avait l'influence russe, entre autres, c'est la période tsariste. Alors, les livres commencent à la période tsariste. et va jusqu'à la création de l'État d'Israël, donc en 1947. Et à partir de là, il suit toute une famille avec les vicissitudes de ces familles. Il y a des riches, il y a des pauvres, évidemment, il y a des pogroms, il y a toutes ces choses qui se passent, et différents personnages. Alors c'est un mélange des romans historiques, des romans picaresques, des romans anthropologiques presque, et puis des tragédies grecques, parce qu'évidemment il y a des choses qui se passent qui sont pas très joyeuses, mais le livre il a un grand souffle et c'est une œuvre très originale. Donc c'est le 65456 et ça permet de voir d'autres angles de l'histoire européenne d'Ali Sheikman, le livre donc. Alors là, pour sortir de cette gravité, on va entrer dans un domaine un peu plus léger, mais néanmoins tout à fait aussi fin, intelligent. Et tu connais Errol Flynn,
le comédien, oui, bien
sûr. Oui, c'est un comédien américain, c'est un personnage, parce que lui-même aussi, c'était non seulement un acteur, mais aussi une personnalité.
Un personnage, oui, tout à fait.
Flamboyante, etc. Et puis, il a toujours voulu être écrivain. Et il, en plus, comme il aimait l'aventure et les risques, et il décide de mettre par écrit deux de ses exploits ou de ses folies. Et le livre s'appelle, bon, tu sauras déjà de quoi il s'agit, le titre s'appelle Moi et Castro. Bon, moi d'abord, hein. Mais bon, il est suivi d'un autre texte, d'un court texte qui s'appelle ce qui m'est réellement arrivé en Espagne. Alors, Errol Flynn, il va, donc, et alors ce texte, je l'ai mis un peu dans humour parce que il y a un petit côté humoristique, bien qu'il y a beaucoup de finesse dans ce qu'il dit. Et il a une grande légèreté, il se moque de lui-même, mais en même temps, il observe très finement. Par exemple, il fait des réflexions par rapport au comportement de Castro, et c'est avant qu'il triomphe. Donc, il est allé vraiment dans la montagne le rencontrer, et il se moque aussi de lui-même, donc des Errol Flynn, des gens qui ne croient pas qu'il est vraiment allé là-bas, et il parle de son penchant pour penchant très, très léger pour la bouteille, etc. Des Errol Flynn, donc. Et après, bon, c'est aussi sur la guerre civile espagnole, et donc c'est pas triste, c'est intéressant, c'est drôle, c'est léger. Et ce qui est donc Moi et Castro, c'est suivi de ce qui m'est réellement arrivé en Espagne, et il porte le numéro 65467. Et pour finir avec cette on a parlé de, mais comme la sélection est grande, on a plus de 80 titres qui sont dans cette liste. C'est moi.
Ah oui, il est bien chargé.
Ah oui, il est bien chargé. Donc, je vais parler encore d'un autre qui est dans la liste, qui est Amin Maalouf, cet écrivain et penseur franco-libanais, qui écrit des romans magnifiques, et qui, dans son dernier livre, Les naufrages des civilisations, il parle, il y a un côté autobiographique de sa vie, donc sa famille qui va du Liban en Égypte, qui ensuite doit quitter l'Égypte à l'époque de Nasser, qui est au Liban, bien évidemment, on connaît toutes les vicissitudes qui se passent au Liban, et lui-même, en tant que reporter, en tant que journaliste, en tant qu'écrivain, il va être témoin. Il se trouve qu'il va se trouver à la fin de la guerre du Vietnam, il se trouve à Saigon, et quand la République islamique, l'ayatollah arrive, il est à Téhéran, il peut même échanger avec avec l'ayatollah, et donc il a une vision de ce qui se passe dans le monde, et en particulier au Moyen-Orient, qui est très, très précise, très proche, c'est un témoin des premières mains, et en même temps une vision assez équilibrée, assez harmonieuse. Et donc c'est un livre qui est bien écrit et en même temps très intelligent sur la situation du Moyen-Orient pour comprendre et aussi le monde contemporain. Il s'appelle « Les naufrages des civilisations » et il est disponible à le numéro 65214. Voilà pour le petit repérage de ce qui a été lu et qui est dans notre liste.
Ben, c'est une belle moisson. Là, je crois qu'il y a du choix. Hein.
Ah oui, il y a du choix. Ça, c'est clair.
Et puis pour l'avenir, qu'est-ce que tu nous proposes?
Alors, en production, pour la, parce qu'il y a aussi ce qui n'est pas encore lu, mais en production, en lecture plutôt, parce que c'est en lecture, c'est un gros morceau. Bon, tu sais qu'on est en 2019 et qu'il y a ces grands artistes, mais non seulement artistes, mais aussi un homme des sciences, un homme de son temps, de la Renaissance, qui est Léonard da Vinci. Et il est mort en mai 1519. Donc ça fait exactement 500 ans. Il est né au mois de mai 1519 et il se trouve que la monumentale biographie de Léonard de Vinci est écrite par Walter Isaacson, qui est celui qui a écrit la célèbre biographie du non moins célèbre Steve Jobs. Donc tu vois, là on a encore un lien avec la fameuse la Grèce. Mais Walter Isaacson, il a écrit celle qui est considérée comme la biographie la plus complète de Léonard da Vinci, et elle est en lecture en ce moment à la BSR. Donc je pense que prochainement, avec un peu de chance, dans un mois ou dans deux, elle sera disponible, ce qui est en lecture. Voilà. Et, bien entendu, comme tu sais, il reste aussi ce qui est sur la table.
Hein? Ouais, je ne la vois pas aujourd'hui, mais ouais. Tu vas me dire un peu ce que tu as.
Et elle est fournie, cette table. Alors, comme on a beaucoup parlé de ce qui a été déjà lu, je vais parler seulement d'un des livres qui est sur ma table, mais qui est un livre assez extraordinaire par la qualité des littéraires et par le contenu. C'est un livre d'un écrivain qui s'appelle John Williams. John Williams est un auteur, pas forcément des plus populaires des écrivains des best-sellers, mais c'est un excellent auteur américain pour les coups. Et lui, il a écrit des livres, très peu de livres, mais celui-ci, qui a été traduit en français, s'appelle Augustus. C'est un roman historique. Et c'est un roman dans lequel il va parler de la Rome antique au moment où Octave va devenir, grâce au Sénat qui voit un peu la Rome partir en vrille, il va souffrir la dictature, donc il va devenir le premier vrai, parce que bon, tu sais qu'il y a eu César, mais tout ce qui s'est passé, Jules, mais Auguste va devenir le premier empereur de Rome, digne de ce nom, et puis à partir de là, et John Williams va reconstruire toute cette période, mais il va travailler écrivant son roman comme si c'était une correspondance. Il y a des lettres, des personnages importants, il commence même avec une lettre de Jules César, il y a des fragments des journaux des personnages, et donc là, ça donne vraiment la sensation que tu es vraiment à Rome à ce moment-là, en train de partager la vie de tous ces gens. Donc c'est un livre passionnant, j'espère qu'un lecteur ou une lectrice vont se décider très bientôt à lire ce livre de John Williams qui s'appelle Augustus. Voilà.
Magnifique, magnifique. On se réjouit de lire et d'écouter tout ça.
Mais écoutez ça,
c'est vrai. Et puis, on va se retrouver tout à l'heure pour la sélection.
Avec plaisir.